Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer. Me captiver.
Bonsoir à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans Déshabillez-moi, le striptease philosophique de Radio Campus Paris. Alors j'aurais pu commencer cette émission en citant la très célèbre, trop célèbre phrase de Victor Hugo, ouvrir une école c'est fermer une prison, ou dire avec Platon que le corps lui-même est une prison, que nous sommes donc tous prisonniers, nécessiteux de nous échapper par la pensée. J'aurais pu parler du panoptique décrit par Bentham et repris par Foucault, dans son légendaire Surveiller et punir, ou me lancer dans une relecture des délices et des peines avec Beccaria, mais non. Je n'en ferai rien parce que mon invité de ce soir m'a suggéré de laisser faire le hasard, ou plutôt de ne pas trop préparer cette émission pour permettre à la maïotique de se faire et à la mayonnaise de prendre. Quelle plus grande liberté que d'avoir une heure devant nous pour réfléchir ensemble, une heure pour faire naître une pensée, de la discussion. C'est donc avec mon invité Jean Mouchard, professeur de philosophie au lycée Jean Massé de Vitry-sur-Seine et à la maison centrale de Poissy que j'aurai le plaisir de m'essayer à cet exercice de haute voltige, une émission sans filet et sans barreaux non plus. Bonsoir Jean Mouchard.
Bonsoir.
Ce soir, vous l'aurez compris, on va tous en prison sans passer par la case départ et sans toucher 20 000 francs non plus. C'est Déshabillez-moi, vous êtes avec nous jusqu'à 21h sur Radio Campus Paris.
Déshabillez-moi.
On va commencer par une première question en fait, qui est née un peu de notre échange de mails qu'on a échangé donc avant de se voir pour la première fois ce soir. Alors, vous me disiez que votre activité à la maison centrale de Poissy n'a de sens qu'en lien avec votre activité à Vitry-sur-Seine, dans ce qu'on appelle, dans le lycée qu'on appelle classé zone sensible.
Oui.
Alors, comment justement les deux s'enrichissent mutuellement et comment l'un et l'autre sont connectés en tant qu'enseignant que vous êtes ?
Enfin, je me suis fait une extinction de voix exprès déjà pour cette émission.
Ça marche très bien.
Ça marche. Mais j'ai peut-être été un peu trop catégorique en disant ça n'a de sens que machin. Mais je pense qu'il y a des ponts entre ces deux enseignements, notamment au niveau du public, de la résistance que ça peut susciter et des résistances qui sont finalement intéressantes. Des publics pas forcément faciles, des publics qu'on pourrait dire atypiques, et puis des publics qui sont un peu dans des lieux de relégation.
Vous aviez commencé par enseigner d'abord dans des lycées,
oui,
avant d'aller enseigner en prison. Alors pourquoi on commence déjà par enseigner en lycée ? Donc ça, a priori, c'est un parcours typique et classique d'un professeur de philosophie. Est-ce que vous avez fait le choix ensuite d'arriver dans des zones dites sensibles ou d'y rester en tout cas ?
J'ai commencé par enseigner dans des endroits... des endroits comme Blois ou Orléans.
C'était la catastrophe. C'est pas très sympa pour
ouais,
les... Je sais pas comment on les appelle, les habitants de Blois, mais...
Blaisois. Mais Orléans, c'est pire. Non, bref.
Heureusement qu'ils nous entendent pas.
Bah si, enfin, ils sont partout. Non. C'était une catastrophe et j'aimais pas du tout. Et comment dire... Après, je me suis fait muter parce que je voulais être plus proche de Paris. Je me suis retrouvé à Vitry, avec un bordereau de nomination, il y avait marqué en gros « Zone sensible, prévention, violence ». Je me suis dit « Tiens, on va voir ». Et les premiers cours étaient du ring, du rodéo, comme ça l'est toujours. Et je me suis dit « Oui, là, ça m'intéresse plus, en fait. Ça résiste plus ».
C'est quand ça résiste que ça devient intéressant, l'enseignement de la philosophie ?
Je ne sais pas, peut-être pas que de la philosophie, mais... Peut-être, oui.
Et vient ensuite le choix d'aller enseigner en prison. Est-ce que c'était un choix de votre part ? Et alors pourquoi ce choix ? Comment ce choix se motive ?
De la curiosité, aussi le fait que les prisons soient entourées de grands murs. Et moi, si je vois un mur, j'ai envie de le franchir. Si je vois une frontière, j'ai envie de l'effacer, enfin de la franchir, etc. d'aller voir. C'est pas, en fait, c'est un choix, comment dire, de pure curiosité, de aller voir ce qu'il y a derrière, comme vous disiez, les barreaux, derrière les murs. Ça n'est pas, je précise, ça n'est pas un choix idéologique qui serait une sorte de philanthropie. Vous voyez, je vais aller apporter le savoir à ces pauvres malheureux. Je suis pas du tout là-dedans. C'est plutôt que l'enseignement en prison m'a appris, je pense, beaucoup de choses philosophiquement. Mais justement, il me semble que la philosophie ne fonctionne pas comme les autres savoirs. Ce n'est pas un savoir cumulatif. Vous savez, en russe, en anglais, en maths, je ne sais pas. On va apprendre et puis après, on va apprendre plus. Et on a plus de connaissances. Moi, j'ai l'impression que le progrès en philosophie, c'est fait non pas en avançant, mais plutôt en reculant.
En apprenant à désapprendre, peut-être.
Exactement. En perdant de la graisse psychique, si je puis dire.
Enfin, un régime de graisse psychique, c'est pas mal.
Oui. Et donc, en se mettant à... Comment dire? À remettre en cause des soi-disant certitudes qu'on avait. Oui.
Alors, justement, il y a d'autres disciplines, vous en parlez, qui sont enseignées en prison. On peut passer aussi le bac en prison.
Oui.
On va écouter un petit reportage. Alors, bon, on ne les aime pas forcément beaucoup, mais de chez BFM TV, on va en discuter après, parce que justement, il y a pas mal de poncifs sur l'enseignement en prison et est-ce que ça peut apporter aux détenus.
Ils plongent sur leur copie, comme n'importe quel élève de terminale, sauf que leur salle d'examen est au cœur de la maison d'arrêt du Mans. Ces détenus ont choisi de mettre leur temps d'incarcération à profit. Cette épreuve d'histoire-géo, ils l'ont préparée toute l'année.
Le fait d'étudier en prison, ça aide beaucoup. On ne reste pas confiné dans la cellule 22 heures sur 24. On bouge, on rencontre des gens, on apprend des choses. On rêve, parce que le fait de lire, ça stimule les neurones.
Qu'il soit reçu à l'examen ou pas, ce détenu de 30 ans aura beaucoup appris, nous dit-il, et surtout, il aura pris goût à la lecture. Étudier en prison, ça permet de s'évader, ça rythme les journées et ça contribue à l'éveil intellectuel.
On est obligé en fait de faire fonctionner notre cerveau et c'est quelque chose de très bénéfique pour nous, comme vous le savez, par rapport à notre vie quotidienne ici qui est très très limitée.
Cette année ici, 4 détenus passent l'examen du baccalauréat. Ils ont étudié 5 jours par semaine avec des professeurs venus de l'extérieur et aussi des internes qui les ont suivis toute l'année.
C'est le moyen aussi de montrer que tout n'est pas mauvais, tout n'est pas négatif et qu'ils sont capables aussi de quelque chose de positif.
Une école de la seconde chance pour certains qui n'auraient peut-être jamais passé leur bac à l'extérieur.
Alors donc dans ce reportage, on se trouve dans une maison d'arrêt. Déjà, c'est assez différent. On va voir un peu, on va revenir un peu sur ces différentes sortes de prisons qu'on peut trouver en France. Oui. Alors évidemment, on a affaire à un reportage assez basique. Ce que peut apporter l'enseignement aux détenus. Vous disiez tout à l'heure que vous veniez pas pour des valeurs particulières ou pour défendre une philanthropie. Pourquoi on a commencé à décider d'enseigner en prison? Et justement, à quoi ça sert cet enseignement en prison?
À eux? À quoi ça sert, de quel point de vue, aux détenus ou...
Des détenus, oui. Pour les détenus.
Pour les détenus, je dirais la même chose que pour mes élèves banlieusards. Je dirais que je prétends pas leur apprendre un... leur apporter des sommes de connaissances, un corps de connaissances, je ne sais quoi. Je prétends juste essayer d'ouvrir des interstices, des brèches éventuellement dans leur pensée. Essayer de réfléchir, essayer de... La posture du prof me gêne un peu. Je ne crois pas être très typique de ce point de vue-là. C'est-à-dire que... Ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'être intensément là, devant des détenus ou devant des élèves de terminale, et d'essayer de, comment dire, un peu comme je vous disais, que la maïeutique opère, qu'un dialogue platonicien se fasse. Après tout, la philosophie n'est comme ça, parce que... Et puis, je citerai en fait une phrase. Je reviens de Vitry, donc je risque de prononcer des mots du genre « wesh » ou un truc comme ça.
Allez-y, wesh. Sans problème.
Okay.
On comprend.
Ouais. Non, mais je repense à une phrase d'un philosophe que j'aimais beaucoup, Claude Lefort. Je me souviens toujours de cette phrase. Qu'est-ce qu'interroger, point d'interrogation, en un sens, faire son deuil du savoir. Et donc, c'est pour ça que, en fait, ce qui m'intéresse dans cet enseignement, aussi bien en prison qu'en banlieue, zone sensible, c'est que ça s'apparente pour moi à un exercice de funambulisme, c'est-à-dire que c'est du risque, c'est du hasard, etc. Et c'est ça, finalement, qui est intéressant. On risque de tomber. Et sinon, ça ne m'intéresse pas tellement, en fait.
Alors, dans le reportage qu'on a entendu tout à l'heure, donc on était dans une maison d'arrêt. En général, les détenus dans des maisons d'arrêt sont là pour des peines courtes. Vous, vous enseignez dans une maison centrale, donc pour des peines longues. Un rapport au temps qui est tout à fait différent.
Absolument.
Des détenus qui peuvent être là pendant plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années.
Bingo.
Qu'est-ce que ça change pour vous, dans votre enseignement, d'avoir d'un côté des lycéens qui sont en général là pour un an, allez, deux ans si jamais ils ratent leur bac et qui doivent revenir, et des détenus de l'autre côté qui sont là pour 10, 20 ans et qui peuvent suivre vos cours peut-être pendant plusieurs années d'affilée.
C'est vrai que c'est extrêmement, c'est extrêmement troublant, cette expérience du temps. Vous posez des questions hardcore, parce que c'est vrai que c'est extrêmement... ça me travaille. C'est-à-dire que une des choses, quand même, c'est que en maison centrale, comme vous dites, il y a des gens qui sont condamnés pour très longtemps, quasiment pour l'éternité, si je puis dire. Et ce qui est très troublant, parce que la question du temps, enfin... Les questions relatives au temps vécu, au temps des horloges, etc., leur discordance, au temps psychique, ça m'a toujours fasciné, travaillé. Une des choses, c'est quand même, qui est très, une des choses très troublantes, c'est le temps infini de leur peine, le sens que ça peut avoir, etc. Et finalement aussi, le rapport entre ça et l'instant du crime, puisque crime dit maison d'arrêt, qui a fait basculer toute une vie. Et ça, c'est extrêmement... ça donne le vertige.
Alors, pour rien cacher à nos auditeurs, on ne se connaît pas, mais on travaille en fait dans le même lieu, puisque moi aussi, je vais régulièrement à la maison centrale de Poissy. Et un des détenus avec qui on travaille nous disait qu'en fait, lui, il arrêtait de penser en termes d'années, mais il pensait plutôt en termes de projets. Donc du coup, il se disait, je vais d'abord passer mon bac, que je n'ai pas passé à l'extérieur, puis ensuite, je vais valider une licence, puis ensuite, je validerai autre chose. Est-ce que du coup, vous avez l'impression de sentir, en fait, vous, dans votre enseignement, cette sorte de validation, en tout cas ce rapport au temps qui est très différent d'un rapport au temps qu'on pourrait, nous, avoir à l'extérieur?
Oui, extrêmement, bien sûr, extrêmement différent. C'est une sorte de grand blanc sibérien, quoi. Enfin, on a l'impression, c'est une des choses vertigineuses dans le temps infini des longues peines. C'est ça que je me pose comme question, moi aussi. C'est comment s'inscrire dans le temps, dans un temps effectivement confiné, parce que là, l'espace aussi est concerné. Et oui, les projets peuvent avoir du sens. Les cours, les projets peuvent être des inscriptions dans le temps. Mais encore une fois, ni par philanthropie, je n'y vais ni par philanthropie, ni pour... je sais pas quoi, divertir, c'est pas le but, en fait.
Oui, c'est pas leur faire passer le temps.
Non, le costume de bouffon, je peux le revêtir assez souvent. C'est un des stratagèmes qu'on peut avoir à Vitry, mais non, pas en prison quand même, faut pas exagérer.
Pourquoi il y a des stratagèmes que vous pouvez avoir auprès de vos lycéens et que vous ne pourriez pas avoir auprès de vos étudiants à Poissy?
C'est une sorte de maturité quand même. Et puis, je pense que c'est peut-être, si je puis dire, enfin, c'est quand même, le langage est quand même ironique, mais les lycéens sont un public captif.
Plus que les détenus.
Parce qu'ils sont obligés, ils savent souvent, mais ils sont obligés d'aller en cours. Les détenus ne sont pas obligés d'aller en cours. Donc, il faut essayer de leur apporter des trucs. Et puis, je me permets quand même une petite dose de... méchanceté, mélancolie, amertume. Enfin, je veux dire, vous enseignez en prison, vous y allez. Enfin, je veux dire, vous ratez pas les choses. Je vois quand même des... Ça m'énerve énormément. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent, mais ça, je vois des profs, vous voyez, universitaires, etc., qui ont peu d'heures de cours, bref, qui vont... qui ont un cours 2 heures par semaine à Poissy, et donc qui se gargarisent du fait que machin, ils enseignent en prison, machin, ils connaissent des célébrités. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des gens qui sont à Poissy. Enfin, de toute façon, c'est tous des célébrités, vu la gravité de ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas le problème. Voilà, des gens qui se gargarisent, des profs qui se gargarisent et qui systématiquement, enfin, très souvent, ne viennent pas et ne préviennent pas en avance. Et vous voyez des détenus attendre et ils ne sont pas prévenus. Et ça, je trouve que ça vraiment, ça m'énerve. Parce que c'est une forme de non-respect. Je sais bien que respect, wesh, c'est galvaudé. Mais je veux dire, justement, enfin, les détenus ne sont pas des animaux. Enfin, quoi que ce soit qu'ils aient fait, vous y allez. Et je pense que ça serait justement les mépriser que voilà, de faire ce que j'ai dit. Ça, c'est une touche de mélancolie quand même.
On espère que le message est passé, qu'ils nous ont entendus. Est-ce que vous parlez à vos lycéens de votre expérience en prison ? Est-ce que vous parlez à vos détenus de votre expérience avec vos lycéens ?
Ben oui. En fait, pour vous dire la vérité, quand je vous parlais de pont entre l'enseignement en banlieue, précisément à Vitry et à Poissy, ça s'est incarné, si je puis dire, sous une forme très très précise. C'est-à-dire qu'à un moment, à Poissy, à la centrale de Poissy, il y avait quand même deux vitriaux, deux habitants de Vitry que je n'avais pas eu en cours, mais qui connaissaient le lycée où j'enseigne, etc., qui me demandaient des nouvelles du bled, si je puis dire, littéralement, de Vitry. Et donc, y a des ponts, et mes élèves détenus, je leur en parle, parce qu'en fait, encore une fois, votre question est vraiment extrêmement pertinente, je trouve, parce que même parmi ce public qu'on appelle classe populaire, zone sensible, c'est du rodéo, souvent, c'est du ring, etc., c'est du funambulisme. Bon, bref, on est là pour faire le truc. Mais même parmi cette population, il y a les poncifs de BFM Télé ou je ne sais pas quoi qui disent prison 5 étoiles, même parmi eux. Et ça, j'essaie de déconstruire ça auprès d'eux, parmi eux.
C'est aussi votre mission en tant que professeur de philosophie que de déconstruire ce type de discours et de préjugés.
Je pense que la philosophie, c'est un des charmes de la philosophie. Et la philosophie a un charme opiacé, mais aussi de déconstruire, oui.
Thank you.
Eh bien, c'était Gustave Mahler, première symphonie, deuxième mouvement. C'est toujours Déshabillez-moi, vous êtes sur Radio Campus Paris.
Déshabillez-moi.
C'était votre choix, Jean Mouchard, d'écouter Gustave Mahler. Pourquoi ?
C'est pour une personne très chère, quelque part dans l'univers, qui se reconnaîtra.
Très bien. Merci beaucoup. Alors, on s'est questionné tout à l'heure sur votre parcours, un peu, ce qui vous a amené à travailler en prison. Alors moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est comment la philosophie pense la prison. Est-ce que, alors, j'ai évoqué tout à l'heure, très rapidement et brièvement, en introduction, Bentham, Foucault, voilà, les grands textes qui parlent de la prison. Est-ce qu'il y a des textes en particulier qui orientent votre pratique d'enseignant en maison centrale ?
Non, en fait, je crois qu'ils n'ont pas vraiment envie de... Enfin, ce que je veux dire, c'est faire court sur des textes philosophiques sur la prison. Je pense qu'ils n'auraient vraiment pas envie. Après, je lis des choses sur la prison, mais surtout des choses ethnologiques, enfin, sociologiques. Les philosophes, OK, il y en a qui ont parlé de la prison, mais... ils sont assez abstraits, et puis d'ailleurs, souvent, les philosophes considèrent le corps comme une prison, donc ce qui me convient moyennement, c'est qu'à regarder l'autre, là, le vieux maniaque de Königsberg, la Kant, enfin, et des choses comme ça. Enfin,
bon, ça lui va tellement bien, le vieux maniaque de Königsberg.
Le vieux maniaque ouais, de Königsberg. Mais non, je me consacre plutôt à des... texte extrêmement classique, et là, si je peux me permettre, comme dirait Kant, non, si je peux me permettre, c'est un truc à moi, j'aime bien le répéter, ça fait. Ouais. Et ben, là aussi, il y a un pont entre la banlieue et la prison, parce que il y a quelque chose qui me fascine et qui me tient à cœur, tient à corps dans l'enseignement en banlieue, c'est que c'est des gens issus de classes populaires, des gens qui souvent affectent de pas aimer l'école, je dis bien affect, etc. Souvent des gens qui n'ont pas envie de lire, ok. Et je crois pas que ça soit limité à ces milieux-là. Mais c'est ça le rapport au temps dont je vous parlais, le fait d'être là, ici, maintenant, intensément présent, plutôt que de débiter un truc du haut de je sais pas quoi, d'une chaire ou je sais pas quoi. Eh ben, il y a une curiosité qui peut être éveillé, et il me semble que c'est ça l'essentiel. Et donc, j'ai fait un petit détour pour dire que j'ai constaté par expérience, en fait, que les publics banlieusards sont souvent très accrochés par deux auteurs, par exemple Platon et Freud. Et vu mes expériences à Orléans ou à Blois avant, il y a des siècles, je peux vous dire que c'était pas comme ça. C'était des trucs, la psychanalyse, ouais, qu'est-ce que c'est que ça, ouais, foutre du fric en l'air, qu'est-ce que c'est que c'est, n'importe quoi. Dans le public banlieusard, il y a une curiosité pour ça. Et je pense que dans cette curiosité se manifeste un désir d'apprendre. Désir. De toute façon, si je peux me permettre, comme dire. Non, enfin bref. Non, la philosophie, comme dit Platon, je suis désolé d'être classique, mais ça a à voir avec l'éros. Enfin, le dieu éros qui n'est pas réductible à la pure génitalité ou je ne sais quoi, mais l'éros, c'est aussi bien le désir d'être là, le désir de vivre, le désir sexuel, le désir d'apprendre, le désir de penser. Et c'est ça qui m'importe. Le reste, en fait, je m'en moque totalement.
Alors justement, quand je vous ai demandé un texte qui, pour vous, était important dans votre pratique, vous m'avez proposé l'allégorie de la caverne de Platon, qui est effectivement un grand classique. Je pense qu'en général, en terminale, c'est un des premiers textes qu'on aborde en philosophie. Alors comment vous l'abordez-vous avec des élèves détenus, ce texte-là ? Et qu'est-ce qui peut leur apporter à ces élèves détenus ?
Le détenu qui sort à la fin de l'allégorie de la caverne, le détenu qui enfin voit la vérité, ne sait pas en réalité s'il n'est pas à son tour enfermé dans une caverne et si au fond ce qu'ils voient n'est pas encore une fois illusoire. Et je pense que qu'est-ce que ça peut leur apporter ? Ça peut leur apporter un détachement peut-être par rapport au lieu où ils sont, une sorte de d'évasion. Oui, enfin, faut pas trop dire quand même évasion aux détenus de Poissy. Faut pas trop leur suggérer des choses, mais oui, des choses comme ça. Mais de toute façon, l'allégorie de la caverne frappe énormément l'imagination de toute manière. Et je sais pas si ça apporte spécifiquement des choses aux détenus, mais si, voilà, j'avais pas pensé à ça en vous répondant par mail, mais une fois j'ai entrepris avec les détenus de Poissy, donc Centrale, etc., de lire avec eux donc le fameux texte Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, où elle décrit le procès, et c'était extrêmement intéressant parce que en matière de procès, ils en savent quelque chose. C'était extrêmement intéressant d'entendre. Je suis là pour écouter aussi, parce que je fais ce métier enseignant parce que j'ai des choses à apprendre de la part même des élèves de banlieue, de la part des détenus, etc. Si je détenais le savoir, enfin, je ferais autre chose. Je ne sais pas.
Ce qui est intéressant, c'est que si je me trompe pas, vous me dites si je me trompe, vous n'avez jamais publié de livre sur votre expérience de professeur en prison. Ce que font souvent les professeurs quand ils vont en prison, on ne sait pas pourquoi ils ont besoin d'expliquer à tout le monde pourquoi ils enseignent en prison.
Ouais.
Alors justement, vous, est-ce que cette démarche, c'est parce que vous pensez que vous avez autant à apprendre qu'eux et que vous n'avez pas à utiliser cette expérience pour donner à savoir ou transmettre quelque chose, ou au contraire, c'est parce que finalement vous pensez que c'est pas une expérience suffisamment différente des autres expériences et qui n'a pas besoin donc...
Non, c'est pas ça, c'est en gestation.
D'accord.
C'est en gestation, j'écris sur des petites fiches, etc., avec une écriture incompréhensible que j'arrive pas à lire, mais, mais ça va pas être des trucs... c'est des scènes. Pas des considérations théoriques sur la prison, sur la réhabilitation, etc. Enfin, peut-être je me trompe, mais je considère que la chose la pire qu'on puisse infliger à un être humain, c'est de le priver de sa liberté. Ok, donc ils sont privés de leur liberté, on va pas en rajouter après, on va pas se livrer à des considérations morales, mais vous avez raison. Oui, il y a vraiment beaucoup de livres putassiers, excusez-moi, sur la prison, vraiment.
Ça fait toujours un peu vendre en même temps.
Ah, ça fait vendre, oui. You bet, yeah.
Ça fait peur et ça fait vendre. Comment cette expérience, elle a influencé votre pensée en tant que philosophe ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un avant et un après la maison centrale de Poissy ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est tellement diffus que c'est difficile de dire que...
Oui, encore une fois, abyssale question, très intéressante. C'est-à-dire que je vais aller voir les choses qui sont interdites de regard, mais aussi, si je peux... Enfin, bref... Aussi, je pense que j'en apprends sur moi-même. J'en apprends sur moi-même. Je sais pas, les murs de prison sont très, très épais, très hauts. Ils symbolisent par là une différence supposément radicale entre nous qui sommes en train de causer, par exemple, qui sommes là, ici, voilà. Nous qui vivons dans les rues, dans la société, dans les appartements, etc. Et eux qui sont derrière les murs, voilà, à Centrale de Poissy, qui ont commis des crimes documentés par des centaines d'articles de presse ou par des émissions, vous voyez ce que je veux dire, machin, la faites entrer l'accusé.
Donc, je sais pas si ça existe encore, je sais pas.
Ouais, je sais pas. Ouais, enfin bon. Et donc, voilà, mais à qui ai-je affaire quand je vois un tel, sur lequel il y a telle ou telle chose? Un fou avec une camisole de force en train de baver? Non, à quelqu'un qui vous parle comme... qui a une conversation avec moi comme vous avec moi. Et donc, là encore, régime de fonte psychique. C'est-à-dire encore une supposée certitude perdue. C'est-à-dire quelle est la frontière entre eux et moi, quelle est la différence entre le normal et le pathologique, entre le crime et le non-crime, etc.
Penguin Café Orchestra, Perpetuum Mobile. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, il est 20h40, c'est Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi.
Et je suis toujours en compagnie de Jean Mouchard, professeur de philosophie en zone sensible et à la maison centrale de Poissy. On parle avec lui de l'enseignement de la philosophie en prison, entre autres. Alors, bah, on va commencer cette troisième partie d'entretien avec un extrait, une bande-annonce d'un film qui s'appelle 4 minutes de Chris Kraus, un film qui date de 2006.
Comment voulez-vous jouer au piano avec des mains pareilles ?
J'en ai pas d'autres.
Faites-la sortir.
J'ai dit, on ne touche pas.
Dehors, allez.
Comment se fait-il qu'elle ait atterri ici? Je veux dire, qu'un si grand talent soit enfermé ici.
Je ne m'occupe pas de ce genre de choses.
Vous avez oublié dans votre lettre le mot pardon, de même que le mot s'il vous plaît et que le mot merci, bien entendu. Pardon, s'il vous plaît, merci.
Je pense qu'il faut donner encore une chance à cette jeune fille.
Elle va jouir d'un super traitement de faveur chaque jour de sa détention.
Un concours spécialement destiné aux jeunes espoirs, en dessous de 21 ans. N'importe qui a le droit d'y participer, je veux que vous arriviez en finale.
Vous voulez votre foutue révérence, c'est ça que vous voulez. Qu'on vous fasse une révérence, très peu pour moi, jamais. Alors vous comprenez bien que vos concours merdiques, j'en ai plus rien à foutre.
Quel est le sens de notre vie, Jenny von Leuven? De moisir 10 ans dans une cellule.
Je te dis de la fermer, Pouviasso! Donnez-moi la clé, faut que je répète.
Je suspendons les permissions de sortie de votre élève.
Vous détruisez sa vie. Nous ne parlerons pas du dossier de votre fille.
Alors de votre dossier à vous.
Je te l'ai dit dès le premier jour que c'était pas pour toi que je faisais ça. Je n'aime qu'une seule chose, la musique.
Personne n'aime que la musique.
Alors dans cette bande-annonce, on a affaire à pas mal de clichés cinématographiques. La violence en prison, bien sûr, celle des surveillances, celle des détenus. Un talent enfermé, une sorte de force brute, un diamant comme ça qu'il faudrait tailler, qu'on découvre et qu'il faudrait tailler. Et bien sûr, le traitement de faveur dont on a toujours peur, c'est-à-dire que si un détenu a un traitement particulier, en l'occurrence ici parce qu'elle est pianiste et qu'elle doit sortir pour participer à un concours, on a très peur que les autres détenus se rebellent en disant que ce n'est pas normal. Alors tous ces clichés, bien sûr, on est dans la fiction, mais on a quand même ce cliché principal qui serait celui de tomber par hasard sur une pépite comme ça, sur une perle en prison. Et est-ce que quand on va en prison, on se dit je vais peut-être tomber sur le philosophe né plutôt qu'un criminel né, quelqu'un qui ne se sait pas encore philosophe mais qui l'est certainement déjà?
Non, je pense pas. C'est en lien, mais j'ai oublié un truc. C'est ce qui me fait un texte qui me fait beaucoup réfléchir, mais encore une fois, c'est en lien avec ce que vous venez de dire sur la prison. C'est pas un texte philosophique, mais c'est un texte de fiction de Dostoïevski en l'occurrence. Mais comme vous le savez, comme moi, parce que vous avez fait des études poussées de philo, souvent, enfin, parfois, on trouve autant de philosophie dans un livre, dans un roman, par exemple, ou dans de la poésie, je sais pas, que dans un livre qui se prétend philosophique. Et pour répondre à votre question, le livre de Dostoïevski, qui a été un bagnard, qui a été incarcéré en Sibérie, au bagne, etc., le livre qu'il a tiré de cette expérience a longtemps, très longtemps, était connu sous le titre français, traduction donc, Souvenir de la maison des morts. Or, justement, c'est une traduction fautive qui a été rétablie récemment par un certain André Markovitch qui a retraduit tout de Dostoïevski et qui traduit exactement le russe. C'est-à-dire, c'est pas Souvenir de la maison des morts, mais c'est littéralement Zapiski is Mirtvo Toma, c'est-à-dire carnet de la maison morte. Et Markovitch commente ce truc-là en disant oui, c'est une maison morte, justement, mais ce n'est pas des morts qui y vivent, c'est des vivants. Et donc, pour répondre à votre question, je ne m'attends pas à trouver une pépite ou un truc comme ça, parce que je pense que, justement, ça ferait partie d'une sorte de romantisme que je partage pas, enfin, romantisme des braqueurs, des machins, non, je suis pas là-dedans. C'est-à-dire que je vais essayer d'y trouver des vivants, une pépite, je sais pas, mais pépite, il peut y en avoir aussi parmi des élèves de Vitry, etc. Mais en tout cas, j'insiste, ok, c'est une maison morte, tout est fait pour le rappeler, enfin, vous savez, comme moi, les murs aussi fins que des feuilles d'OCB, des barbelés, des grilles, infiniment de grilles à passer, des portes, etc. Ok, c'est une maison morte, mais il y a des vivants dedans. Voilà. Et donc, pépite, je ne sais pas, mais des vivants en tout cas.
Qu'est-ce que c'est pépite, enfin, c'est vivant, pardon, qu'est-ce que c'est vivant, et pépite aussi, d'ailleurs, on peut le dire parfois, viennent chercher quand ils viennent à un cours de philosophie. Est-ce que vous arrivez à déterminer ce qui les motive, eux, à venir vous voir?
Je sais pas, ils suivent aussi d'autres cours. Je ne saurais pas vous répondre, en fait. Moi, j'essaye de faire comme je fais ailleurs. J'essaye pas de me changer. Évidemment, je ne vais pas faire un cours structuré, etc. Et grand 1, petit 1, etc. Grand 1, le tout, grand 2, le rien. Enfin, non, je ne vais pas dire des choses comme ça, mais... C'est un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que mes questions peuvent être nourries par leurs questions peuvent être nourries par les miennes. Je vais y enfoncer une porte ouverte, mais c'est un échange, sinon là encore ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose qui se crée ou pas, mais je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais je suis là pour ça et je me donne physiquement pour ça, physiquement, psychiquement. C'est pour ça que c'est intéressant, il me semble.
Est-ce qu'il y a des a priori sur la philosophie, des choses où ils se diraient c'est pas pour moi parce que moi je suis pas dans la pensée ou ce genre de choses, des barrières qu'il faut faire exploser quand vous arrivez vous
faut toujours faire exploser toutes les barrières. Mais ça c'est des barrières comme vous dites qui sont partagées par beaucoup, enfin pas seulement par les détenus. C'est très partagé, il me semble, cette expérience de la philosophie. Mais je pense qu'à ce moment-là, ça dépend de l'enseignant. Enfin, la rendre, je ne vais pas dire la rendre accessible, parce que ça serait faux de dire ça comme ça, mais de la rendre vivante. Hein. Et donc moi, je suis persuadé qu'au fond, tout le monde remue des questions philosophiques en lui. Après, je pense que certains décident de les refouler, il me semble.
Quand vous entrez en prison, vous n'avez pas des relations uniquement avec les détenus. Mmh. Vous avez aussi beaucoup de relations nécessairement obligatoires avec les surveillants, le personnel de l'administration pénitentiaire. Ouais. Est-ce qu'il y a des a priori aussi de leur part, du professeur de philo qui débarque en prison et qui viendrait enseigner
Bingo.
c'est là que ça devient le plus difficile.
Non, c'est pas ça. En fait, c'est plutôt... et je vous jure que c'est vrai, en fait. Vous voyez comment il fait... vous allez au centre scolaire ou pas?
Non, pas du tout.
Non. Ok, pour aller au centre scolaire, il faut franchir 3000 portes, etc. Il faut franchir des portiques, il faut se déshabiller, enfin pas totalement, mais il faut même enlever ses chaussures, etc. Et puis au bout d'un moment, dans cette maison morte qu'on franchit, qu'on pénètre peu à peu, si je puis dire, la cour, on voit la cour, on passe par la cour. Donc là, on voit les détenus, etc. Et il faut franchir la cour et il faut être accompagné d'un surveillant pour aller au centre scolaire. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que quand on revient de cours, on retraverse la cour avec un surveillant et on a accès à la porte qui donne accès à la liberté, même si après il faut refranchir plein d'autres portes. Mais bref, voilà, en fait, ce qui m'arrive à chaque fois... De plus en plus, avant ça m'arrivait épisodiquement, mais maintenant c'est à chaque fois. C'est quand je reviens, j'essaye de sortir, tous les profs, même hommes, tous les profs, on les laisse passer, il n'y a pas de problème. Et moi, à chaque fois, j'arrive devant la porte, les matons me disent « qu'est-ce que vous faites ?»
Ils vous prennent pour un détenu ?
À chaque fois, c'est tout le temps ça.
C'est étonnant.
Bah, vous avez vu. Enfin,
c'est à l'avantage de la radio, personne ne peut voir.
Oui, personne ne voit, mais enfin, voilà, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. Donc,
donc ouais. Vous devez montrer patte blanche et dire non, non, je suis juste le prof de philosophie.
Je suis obligé de montrer mon badge. Et ils disent oh, pardon, désolé, parce que vous nous rappelez quelqu'un. Voilà.
Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, de vous faire prendre pour un détenu ? Est-ce que ça implique quelque chose ? Est-ce que ça influe quelque chose pour vous ou pas du tout ? Est-ce que ça a des conséquences sur la manière dont vous vous percevez vous-même ?
Non, pas vraiment, mais... Ça peut éventuellement me rappeler que... Ça peut éventuellement m'interroger sur moi-même, sur ce qui distingue des gens comme ça et moi. C'est-à-dire, est-ce que, je sais pas quoi, il y a une différence de nature entre eux et moi ? Non, ça peut m'interroger extrêmement profondément sur des pulsions de violence que je peux avoir moi-même, sauf que moi, je suis pas passé à l'acte. Enfin, pas devant une caméra. Non, je rigole. Non, vous voyez ce que je veux dire ?
Bien, très bien. Alors, on a déjà un petit peu commencé, en fait, la dernière partie de cette émission, qu'on appelle l'entretien psy. Donc, on vous garde un petit peu avec nous, puis on va vous poser deux, trois autres questions un peu plus personnelles.
Déshabillez-moi.
Tout va bien, il n'y a pas de psy ici, personne ne va entrer. Est-ce qu'il n'y a pas, chez un enseignant en prison ou un visiteur de prison, une forme de fascination pour le milieu carcéral, une sorte de fascination pour les criminels ou pour la violence ?
Déjà, visiteur de prison et enseignant, c'est fondamentalement différent à mes yeux, parce que les visiteurs de prison... Je ne vais pas leur jeter la pierre, mais ils ont une démarche, je pense, assez philanthropique. Et je pense que c'est de leur côté que joue une fascination. Moi, je fais enseignant, je suis payé peu, mais je ne le ferai pas, hein, pour être honnête. Si je n'étais pas payé, non, pas de fascination. Pour le milieu carcéral, certainement pas. Hein, certainement pas, mais pour la violence, peut-être. Pour la violence, oui, ça peut interroger, oui, c'est... Effectivement.
Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est cette frontière entre le moment où on a tous cette violence en nous et puis il y a ceux qui passent à l'acte et ceux qui ne passent pas à l'acte. Et des détenus peuvent nous expliquer que rien ne les préparait. En tout cas, on ne pouvait pas imaginer qu'ils pouvaient se retrouver dans cette situation-là. Ils n'avaient pas une carrière délinquante et puis un jour ou l'autre, ils passent à l'acte.
Absolument.
Ce qui pourrait nous arriver à nous.
Absolument, l'instant du crime, enfin... que certains, des psys justement, comme Pantalis, ont essayé d'imaginer comme un moment absolument hallucinatoire. Et donc, je pense que c'est philosophique au sens où ça concerne notre présence au monde, enfin sa propre existence, des questions philosophiques, ça concerne ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait là. Une question philosophique, c'est qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui se passe, enfin, je suis en vie. Philosophie n'est pas faite pour les morts. Mais juste, il y a un truc aussi quand même assez troublant, c'est que, comme vous le savez, c'est par rapport à ce que vous appelez la fascination, c'est extrêmement troublant de savoir que, et ça encore une fois, je ne l'ai pas appris sur BFM Télé, mais c'est des détenus qui eux-mêmes m'en ont parlé en s'en plaignant. Le nombre... de criminels, criminels au sens qui ont commis un crime, bref, c'est tout, qui reçoivent des lettres, beaucoup de lettres de femmes notamment, qui sont amoureuses d'eux et qui ne comprennent pas ça. Un détenu, une fois, m'en parlait et me disait je comprends pas, quoi. Elle, voilà, une personne, une femme qui lui avait écrit et qui. Lui disait, je veux absolument un enfant de toi, etc. Enfin, il lui comprenait pas non plus. Et c'est troublant, en fait, je trouve. Très troublant. Et je partage pas du tout cette fascination. Pour... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir par-delà les murs, comme d'habitude, et de voir voilà, ce qu'on peut avoir de commun, au risque de finir par se faire prendre pour un tolard.
Alors, comment, si justement vous étiez un tolard, comment vous essayeriez d'occuper votre temps ? Qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous feriez de la philosophie ou est-ce que vous feriez un peu de sport ?
Du sport.
Est-ce que vous arrivez à imaginer simplement être enfermé pour 20
non,
ou 30 ans ?
Non, mais c'est une très bonne question. Pour 20 ans, vous rigolez ? Ça, c'est un truc. Enfin, c'est une question qui ne peut pas ne pas se poser, je pense, quand on va en prison. Parce que souvent, je fais un lapsus, je téléphone à un tel, je sais pas quoi. Ok, je vais en prison, pardon, à la prison cet après-midi. Parce que quand même, c'est extrêmement troublant. Parce que rentrer dans cette maison morte, je peux, je pense. Mais c'est parce que je sais que je peux en sortir. Et ça, enfin, je vais employer une formule qui fait genre, wesh. Mais le dedans et le dehors est extrêmement fascinant. Mais évidemment que la question que vous posez, je me la suis posée intensément. Elle travaille aux tripes, etc. Mais pour répondre à votre question, m'imaginer enfermé 20 minutes, ben je me pends.
Oui, je pense qu'effectivement, je pense que n'importe qui de libre aurait cette même réponse, effectivement. Alors, quelle est votre plus grande désillusion dans votre métier d'enseignant en prison et en zone sensible, en lycée ? Si désillusion, il y a.
Ça sera une désillusion par rapport aux politiques menées, à savoir très précisément, là c'est sur le lycée, c'est-à-dire que au début, c'est un établissement classé zone sensible. Quand je suis arrivé en 2006 là-bas, au maximum, du fait du statut de zone sensible, il y avait au maximum 24 élèves par classe. Maintenant, il y en a 30 systématiquement. Et ça détruit des choses. Ça rend impossible des choses. Ça, c'est une désillusion. Ouais, une désillusion. Mais qui ne l'emporte pas sur des découvertes pépites, des découvertes, je ne sais pas, mais des figures extraordinaires. Parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est de garder contact avec des anciens élèves, savoir ce qu'ils font, ça m'intéresse. Et même être devenu ami avec pas mal d'entre eux. Et ça en fait un paquet maintenant. Et ouais, voilà.
Voilà. Et votre plus grande fierté, pour terminer sur une note positive ?
Leur apprendre en philosophie ce qu'est le chétan.
Très bien.
Le diable.
Ils iront regarder sinon. Merci beaucoup à vous, Jean Mouchard, de vous être prêté au jeu de cet interrogatoire, on pourrait l'appeler comme ça. Est-ce que vous avez un message à faire passer à vos étudiants, anciens étudiants, détenus ou libres ?
Pas vraiment, mais je les embrasse tous. Enfin, et pensez au chétan, wesh.
Très bien, merci beaucoup. Déshabillez-moi, c'est terminé pour ce soir, mais la soirée continue sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est MapMonde avec Thomas qui vous emmène au nord de la Norvège. Merci à Christophe pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission sur le www.radiocampusparis.org, sur la page Déshabillez-moi, et écoutez bien sûr toutes les précédentes. Voilà de quoi occuper vos longues soirées d'hiver. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.